travaille sur un lieu. Et aujourd'hui, Ingeles va nous présenter du coup ses travaux, et plus particulièrement sur l'espace de la radio, en fait, du studio de radio, pour parler de la radio. Lorraine Carnet, très découvert en 79 à Lille, que on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et
donc,
je pense qu'on va pouvoir commencer.
Je présente.
Ah oui,
voilà. Petit tour de table.
Ah oui, pardon.
Bon, on fait un tour de d'habitude, on fait un tour de table pour se présenter, pour savoir un peu qui est qui et d'où on vient. Bah, vas-y, attends, commence.
Eve Marie Confort, moi je suis doctorante en sociologie à Nantes, au Centre Nantais de Sociologie. Et je fais une thèse sur les conflits du travail, enfin les mobilisations de femmes dans les conflits du travail dans les secteurs d'emploi très féminisés, avec deux cas, Chantal, qui est le même que Fanny, en fait, des ouvrières de l'habillement, et des salariés de la petite enfance.
Anaïs Albert, moi je fais une thèse en histoire du 19e, je travaille sur la consommation des classes populaires parisiennes entre la fin du 19e et le début du 20e siècle et sur comment les classes populaires sont rentrées dans la consommation de masse.
Je m'appelle Yann Medonema, je ne fais pas du tout de recherche, je suis là pour raconter les questions de genre m'intéressent personnellement.
Moi je suis Victor Marner, je suis doctorant à l'UP de Bordeaux et moi, je travaille sur les conseillères municipales dans les communes rurales et périurbaines en Gironde.
Bonjour, je m'appelle Xavier et je suis en M en histoire contemporaine, en spécialité sur la psy, et je travaille sur les femmes dans le mouvement populiste vers la fin du temps.
Moi je suis Coralie Mathieu, je suis en master d'histoire des sciences à l'EHESS.
Oui, Normandine Caputo, prof d'histoire géo, à Fontainebleau, et je suis en train de construire mon projet de thèse. Ça avance, ça avance. Voilà, j'ai travaillé pour mes deux années de master sur le syndicalisme féminin CGT dans le Limousin, et j'ai, en deuxième année, j'ai étudié trois conflits sociaux particuliers, occupation d'usine, etc. Toujours les femmes, toujours le Limousin, toujours la CGT.
Katie.
Si tu veux te présenter.
Ah, en nom.
Katie. Ça va?
Oui.
C'est mieux? Okay. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cathy Jarry, je suis doctorante à l'Université de Wisconsin à Madison et je suis historienne de la Révolution française. Actuellement, je fais des études sur les dames des Halles pendant la Révolution. Alors voilà les classes populaires et de genre pour moi.
Et Anne Jussam, je suis en troisième année de thèse sur le congrégation religieuse féminine et le soin aux malades pauvres à Paris au 19e siècle.
Sachant que pour tout le monde, il y a trois autres membres dans le monde du groupe, mais qui sont pas là, enfin du Caroline de Séminaire, qui ne sont pas là aujourd'hui. Fanny Gallo qui travaille sur les ouvrières dans le très contemporain. Clyde Marlowe-Plumesil qui, elle, travaille sur les prostituées sous la Révolution française. Et Mathilde Méheux qui travaille sur les vieux en maison de retraite à la fin du 19e. Voilà. Je voulais juste présenter Ingrid, puis on te donne la parole. Donc Ingrid Hayes, qu'on reçoit aujourd'hui, est professeure d'histoire-géographie dans le secondaire en Seine-Saint-Denis. Elle a commencé la recherche dans un mémoire de maîtrise sous la direction d'André Caspi, en travaillant sur les États-Unis et sur les syndicats américains face à l'immigration, des années 60 aux années 90. Et donc, un de ses premiers intérêts, c'était la place et le rôle de l'immigration dans la reconfiguration de la classe ouvrière. Et ça rejoint un autre des intérêts de ce séminaire, qui est de croiser toujours les catégories de genre et de classe avec d'autres catégories de la différence. Et je pense qu'on pourra en reparler après ton intervention. Et donc sa thèse, soutenue en novembre 2011 à Paris 1, sous la direction de Michel Pigenet, était intitulée « Radio Lorraine Cœur d'Acier, à Longwy, 1979-1980, les voies de la crise, émancipation et domination en milieu ouvrier ». Donc cette thèse porte sur une radio syndicale de la CGT qui s'appelle Lorraine Cœur d'Acier, qui a émis de mars 79 à janvier 81 à Longwy, dans l'est de la France, au cœur du pays sidérurgique, au moment de la crise économique et du démantèlement du monde ouvrier et du monde professionnel sidérurgique. Et donc l'intérêt, et pour nous le lien avec ce séminaire, c'était à la fois le sous-titre, émancipation et domination, et c'est une des problématiques centrales qu'on essaye de questionner à travers les rapports de genre et les rapports de classe, donc la domination mais aussi les émancipations possibles, et voilà, la subversion possible des rapports de pouvoir, et donc la dimension des classes populaires est évidente, on va y revenir, puisque c'est une radio qui tourne autour du monde ouvrier, mais pas seulement. Et celle des rapports de genre, ça va être abordé plus précisément aujourd'hui, justement, au sein de ce lieu, qui est donc l'autre thème du séminaire, qui est le studio de radio, pour une communication qui a été intitulée « De l'usine au studio, un espace militant hors l'usine en bassin sidérurgique, quelle place pour les femmes ? L'exemple de la radio Lorraine Cœur d'Acier à Longwy, 79-80. »
Je fais juste un rectificatif sans importance, je ne suis plus en Seine-Saint-Denis maintenant, j'en sais pas.
Désolée.
C'était vraiment pour la précision historique. Et bien d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais commencer en essayant de donner quelques éléments de contexte avant d'entrer dans le vif du sujet, même si tu en as donné un certain nombre déjà, et même si ce n'est pas directement l'objet de cette intervention. Mais je pense quand même que c'est mieux d'avoir une petite idée du cadre avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Alors le premier élément sur le bassin industriel qui est le lieu dans lequel la radio se met en place en mars 1979. Donc on est dans un bassin mono-industriel qui est marqué par une industrialisation qui a été tardive. Alors c'est le cas partout en France, mais ça a été sans doute encore un peu plus tardif en Lorraine qu'ailleurs en France, avec une double activité agricole et industrielle qui s'est maintenue longtemps pour les ouvriers, et avec des maîtres de forge, donc les patrons de la sidérurgie, qui se sont assurés le monopole sur la main-d'œuvre, avec une classe ouvrière qui est très masculine, à l'image de la sidérurgie évidemment. Et avec sur le bassin, au moment où on considère le bassin, donc en 79-80, peu d'activités qui ne dépendent pas directement de la sidérurgie. Du côté des femmes, on a en gros quelques usines textiles, mais c'est à peu près tout. Et donc le mouvement ouvrier tel qu'il s'est constitué évidemment est marqué par ces données historiques là, notamment avec une implantation du Parti communiste assez tardive puisqu'elle est postérieure à 1945 et la mise en place de ce que Serge Bonnet a appelé un communisme syndical, c'est-à-dire un Parti communiste qui s'est implanté mais en partant de ce qu'était l'implantation de la CGT auparavant, ce qui donne notamment des difficultés assez importantes d'implantation. Une fois que le Parti communiste essaie d'aller au-delà des collectifs usiniers, disons, et notamment avec une difficulté assez importante de la CGT et du Parti communiste français à recruter des femmes. Deuxième élément de contexte, donc on est à un moment de mobilisation qui font suite à des annonces de démantèlement, d'un énième plan de reconversion, démantèlement de la sidérurgie, mais on est après déjà une quinzaine d'années de crise dans la sidérurgie. On a parfois l'impression que c'est le moment de la crise, en réalité c'est plutôt la fin, enfin, sauf que la fin c'est maintenant sans doute, mais avec des répercussions sur le monde ouvrier du bassin de Longwy. La crise a débuté donc dans le bassin au début des années 60 par les mines de fer, parce que c'était avec le fer qu'on fait l'acier. Donc ensuite, il y a une succession de plans de reconversion depuis la fin des années 60. La sidérurgie française est donc très en difficulté, en très mauvaise posture, dans une concurrence internationale qui s'est renouvelée dans les années 60. Donc en 78, au moment où les annonces sont faites, elle est en état de faillite. Et elle est tellement en état de faillite que l'État en a en fait pris le contrôle avec une espèce de nationalisation qui ne dit pas son nom. Et c'est l'État du coup qui va organiser le démantèlement de la sidérurgie, en tout cas de cette partie-là de la sidérurgie. Il y a deux zones qui sont touchées, Denain dans le nord et puis Longwy en Lorraine, avec l'annonce de 21 500 suppressions d'emplois, dont 6 500 à Longwy. Donc, ce qui est évidemment considérable. Bon, sachant que les 15 années de crise que j'ai rapidement évoquées font que le monde ouvrier traditionnel, disons, est déjà très fragilisé, notamment du côté des ouvriers de métier, parmi lesquels la CGT recrute principalement. Troisième élément de contexte, donc une mobilisation est en cours. Donc, je l'ai dit, la mobilisation est lancée en décembre 1978, au moment où les annonces de restructuration et de suppression d'emplois sont faites. C'est une mobilisation qui est au départ très massive, et elle implique même au départ des secteurs de la droite locale, avec des manifestations massives et en même temps des opérations coup de poing qui tentent d'augmenter la visibilité de l'affaire, sur fond d'une rivalité CGT-CFDT au niveau local et au niveau national, rivalité qui va s'aggraver. Quatrième et dernier élément de contexte, sur les conditions de lancement de la radio. Donc on se situe dans le cadre de ce qu'on a appelé peut-être improprement ou peut-être de manière exagérée le mouvement des radios libres, qui est à ce moment-là plutôt dans une phase d'essoufflement et qui dans cette phase d'essoufflement, en tout cas dans sa partie la plus politisée, va partir à la rencontre du mouvement syndical en espérant y trouver un second souffle. Et c'est dans ce contexte-là que naît non pas Lorraine Cœur d'Acier, mais d'abord la radio qui s'appelle SOS Emploi, qui est une radio qui est mise en place par la toute petite, enfin petite, toute petite c'est exagéré, la petite CFDT locale, donc qui met en place cette radio, c'est la radio qui est toute petite à dire vrai, qui met en place cette radio donc dès décembre 78 au moment des annonces, donc qui est une radio tellement petite qu'ils sont obligés d'aller, puis en plus ils sont évidemment clandestins, donc il faut aller dans la forêt, bon, à peu près personne n'est en capacité de l'entendre, mais elle impacte beaucoup, elle a un impact considérable, et du coup la CGT, qui elle est très dominante sur le bassin, l'Union Locale CGT, donc contacte le secteur propagande de la CGT, parce qu'elle ne souhaite pas se faire d'améliorer par la CFDT, et parce que d'autre part, il y a une grande mobilisation en préparation, qui est la marche du 23 mars 1979, donc la marche sur Paris des sidérurgistes, pour laquelle elle souhaite mobiliser. Donc, le secteur propagande de la CGT répond favorablement à cette demande, fournit des moyens considérables, notamment un émetteur importé d'Italie par des voies illégales qui était un émetteur très puissant, surtout au regard de ce dont disposaient les radios libres jusque-là. Et puis, ça c'est un élément important pour la suite, qui met deux journalistes professionnels pour la conception et l'animation de cette radio. Donc c'est une radio, puisqu'elle a tous ces moyens-là, qui a pignon sur rue, ce qui permet à la CGT de tenter de surmonter une de ses contradictions, c'est-à-dire que la CGT lance à ce moment-là cette première radio, et puis ensuite en tout il y en aura une quarantaine de radios libres de la CGT. Donc évidemment ce sont des radios qui minent la base matérielle du monopole d'État que contestaient les radios libres sur la diffusion, mais en même temps la CGT elle syndicalement est favorable au monopole et au maintien du monopole. Donc c'est une des raisons pour lesquelles elle souhaite que cette radio soit la moins clandestine possible, ou en tout cas ressemble le moins possible à une radio libre. Donc Lorraine Cœur d'Acier émet du 16 mars 1979, donc en préparation de la marche du 23 mars. Elle est prévue pour durer quelques jours, quelques semaines. Finalement, sous sa première forme, elle émet pendant 15 mois, jusqu'en juillet 1980, moment où elle est reprise en main par la CGT, donc par les structures départementales et nationales, dans le cadre d'un conflit qui a contribué à déchirer le tissu militant local, qui a sans doute aussi contribué à faire de Radio Lorraine Cœur d'Acier un mythe au panthéon des radios libres. Et notamment un mythe sur la question de la parole des femmes. Alors, deuxième aspect de cette introduction, bon, vous m'excuserez, j'espère qu'elle soit un peu longue. Donc, quelques éléments pour m'acheminer vers le sujet tel qu'on l'a défini. Je voudrais essayer de circonscrire, ou disons de dire ce que je mets derrière l'expression « hors l'usine ». On est donc dans le cadre d'une mobilisation massive et populaire, mais en même temps, c'est une mobilisation qui ne prend pas vraiment, ou pas massivement, dans les entreprises. C'est une mobilisation un peu dos au mur, hein, je vous ai dit, dans une situation où les entreprises sont en état de faillite, donc avec un rapport de force extrêmement défavorable pour les ouvriers qui se mobilisent. Et la sortie d'usine est aussi le reflet de cela, et c'est une nouveauté, il faut sans doute y insister, c'est une nouveauté pour la CGT, y compris c'est un peu un test d'implantation pour la CGT sur sa capacité à rayonner au-delà du... Des usines elles-mêmes, des entreprises elles-mêmes. Et la radio s'intègre dans ce cadre comme initiative qui demeure syndicale, mais qui essaie d'aller vers la population parce que le rapport de force dans l'usine ne permet pas la victoire. Alors, cette sortie d'usine, c'est mon deuxième élément, dans le cas de la radio, produit une expérience singulière, avec la place déterminante des deux journalistes professionnels parisiens que j'évoquais tout à l'heure, dont un qui est déjà fort expérimenté. Ce sont des syndicalistes, des sidérurgistes qui sont à l'initiative de la radio, donc très nettement la composante ouvrière, mais celle-ci n'est pas à la manœuvre à la radio, donc c'est une radio qui permet une expression ouvrière, mais qui ne permet pas à la composante ouvrière, qui est pourtant importante, et à l'initiative, d'avoir une fonction ni éditoriale, ni d'animation. Et on assiste y compris à la mise en place d'un groupe de pairs, PAIRS, souvent enseignants ou animateurs socioculturels, qui ressemblent aux journalistes, disons, et qui vont avoir en charge les nombreuses émissions culturelles. Alors évidemment, avec l'affaiblissement des mobilisations, la radio devient plus généraliste, et progressivement avec la fin des mobilisations, puisque la défaite sur le plan des mobilisations a lieu en juillet 79 et la radio va émettre encore un an après cette défaite, donc elle va survivre à la défaite des mobilisations, mais du coup progressivement évidemment les sidérurgistes retournent travailler et la composante ouvrière va être au bout du compte largement représentée par les femmes de sidérurgistes qui sont non salariées. Alors évidemment tout ça a des conséquences sur les programmes, sur les thématiques, en particulier il y a d'emblée, et puis c'est une tendance qui va s'accentuer, une très faible place pour la sidérurgie en dehors des comptes rendus à chaud pendant la mobilisation, mais en tant que sujet propre, c'est très peu abordé, et la quasi-absence du travail comme thème. Alors, donc, tout ça m'amène à considérer le sujet avec un angle double. Donc, je le disais, on a beaucoup parlé de la place des femmes à Lorraine Cœur d'Acier, donc je voudrais voir ce qu'il en est réellement. Et puis, on a une expérience hors de l'usine, donc dans un bassin modo-industriel où le prolétariat industriel est essentiellement masculin. Donc, la sortie d'usine devrait effectivement, théoriquement, permettre la présence des femmes. Donc, voir quelles sont les conséquences de ce point de vue. Alors, on est, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, dans le cadre de sources radiophoniques. Moi, j'ai essentiellement travaillé sur des enregistrements d'émissions. Donc, on part de l'expression des acteurs, avec le principe du direct permanent, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un téléphone branché dans le studio et que qui souhaitait parler, appelait et prenait la parole. Donc là aussi, c'est plutôt un cadre favorable aux femmes, c'est-à-dire que l'expression n'est pas réservée aux professionnels de la parole. En même temps, évidemment, c'est biaisé, parce qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont présentes, mais qui sont inaudibles, donc qui sans doute passent beaucoup de temps là, mais ne prennent pas la parole, mais cela... D'autre part, évidemment, ça n'abolit pas, c'est pas parce que la parole, on peut la prendre, qu'elle est facile à prendre, et donc ça n'abolit pas le droit d'entrée qui existe pour prendre la parole en public. Donc je vais évoquer dans un premier temps les obstacles auxquels les femmes font face pour prendre une place dans l'expérience radiophonique, avant de voir la place qu'elles occupent quand même, donc néanmoins, pour affiner brièvement dans une troisième partie, en tentant de préciser quelles femmes occupent quelle place. Alors, pour ce qui est des obstacles, malgré l'ouverture potentielle que doit permettre la sortie de l'usine, il existe évidemment des facteurs, je ne vous surprendrai pas sans doute, des facteurs limitants liés aux déterminations sociales et idéologiques qui sont combinées. On peut sans doute considérer qu'on part avec une triple influence qui a des effets combinés. D'une part, la condition des femmes en milieu ouvrier et populaire, qui est marquée en plus, comme dans l'ensemble de la métallurgie, par des formes d'organisation sociale qui résultent de l'influence d'un milieu professionnel qui est presque exclusivement masculin. On a, deuxième influence, l'influence du mouvement syndical et ouvrier, et notamment les représentations et conceptions de la CGT, marquées par un antiféminisme syndical traditionnel, et celle du syndicalisme chrétien, qui est assez présent, par le biais de l'Action catholique ouvrière ou de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et puis enfin, troisième influence, l'influence communiste, donc les conceptions du Parti communiste français en la matière. Alors, ces influences sont d'abord sans qu'il y ait d'ordre de priorité, hein, mais une traduction dans le rapport au féminisme, du côté des hommes, mais aussi du côté des femmes, avec une différenciation de classe qui est assez forte. Alors on peut considérer que cet obstacle-là n'est pas directement un obstacle à la participation, parce que ces conceptions-là ne sont pas seulement imposées idéologiquement, elles sont aussi articulées avec les normes traditionnelles qui peuvent correspondre à l'habitus des femmes de ce bassin-là, mais en même temps, ça veut dire d'une part une mise à distance des féministes, puisqu'on est en plein bouillonnement là en 1979, et c'est aussi être à distance de, disons, le potentiel de subversion du féminisme, de tout ce qui est normes et assignations. Alors, je vais prendre des exemples. Je vais prendre un premier exemple pour ce qui concerne la critique masculine du féminisme. On est le 9 avril 1979, donc finalement assez peu de temps, à peu près 3 semaines après le lancement de la radio, et la radio intéresse beaucoup de radiolibristes, hein, de militants des radios libres. Il y a Suzel, qui est enseignante, qui est militante féministe et qui est animatrice de la radio libre Les Radioteuses, qui vient rendre visite à la radio. Les Radioteuses, c'était une émission non mixte, une radio libre non mixte, qui était essentiellement animée par des militantes d'extrême gauche. Alors, elle va se voir opposer une série d'arguments qui sont assez traditionnels, ou en tout cas qui l'étaient, face aux féministes. Alors, dans un premier temps, elle explique Elle insiste sur le fait que les femmes ont du mal à s'imposer à la technique, et donc un syndicaliste l'interroge sur les raisons de cet état de fait, donc lui est sidérurgiste, il dit « Est-ce que ce n'est pas le problème de l'enseignement? C'est pas la faute des hommes, c'est la faute d'une politique. » Donc avec cette idée qu'on refuse l'idée que les hommes pourraient contribuer eux-mêmes à maintenir l'oppression qu'ils exercent. Deuxième argument, on expliquait souvent aux féministes que la libération des femmes n'était pas l'affaire des principales intéressées et que les hommes pouvaient tout à fait s'en charger à leur place. Et donc il y a un des journalistes, lors de la même discussion, qui va dans ce sens en disant, donc je cite, « J'étais chez Bébert et lui n'a eu de cesse que de briser les chaînes ». Donc briser les chaînes, évidemment, qui pesaient sur sa femme. Donc ce sont les hommes qui émancipent les femmes, le sous-entendu étant ici que, d'ailleurs, c'est pas facile, parce qu'elles résistent. C'est par ailleurs opposé une fin de non-recevoir à un débat qui irrigue à ce moment-là le mouvement féministe, à propos de la nécessité d'un mouvement autonome, justement. Et ça signifie enfin que, par la vertu de la simple bonne volonté, la sphère privée échapperait au rapport de domination qu'exercent les hommes sur les femmes si les hommes le veulent bien et que les femmes font en sorte d'accepter que c'est... Bon, vous avez bien compris. Donc, l'autre critique classique, c'est la critique qui consiste à considérer que la négation de la différence est porteuse de désordre. Donc là encore, c'est le journaliste qui se charge de la porter, je cite encore, « Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait avec les femmes maintenant. On ne peut plus dire à une femme qu'elle est jolie. Qu'est-ce que ça change au niveau de la sexualité? Les hommes vont avoir peur des femmes. Faut-il une inversion complète des rapports ?» Là, ce n'est pas un sidérurgiste qui parle. Hein. Donc les féministes sont accusées de nier la différence objective entre hommes et femmes, qui justifiait donc le rapport de séduction traditionnelle à la base d'une sexualité elle aussi traditionnelle, et elles nourrissent une opposition stérile entre hommes et femmes en faisant en sorte de braquer les hommes par des comportements provocateurs et exagérés. Et puis enfin, le coup de grâce, donc dernier argument qui lui est opposé, c'est « mais toi-même, as-tu des contacts avec la classe ouvrière ?» suprême pour délégitimer la parole de la militante, en l'occurrence, surtout dans un bassin qui est marqué par le poids objectif de la composante ouvrière et par la forte implantation de la CGT du Parti communiste. Donc, j'aurais pu prendre d'autres exemples, celui-là, cela dit, est assez complet et indique assez nettement la déconnexion entre les débats et les pratiques féministes de l'époque et les conceptions des animateurs. Alors si je prends maintenant du côté des femmes, l'influence idéologique du Parti communiste articulée aux normes dominantes, a aussi des conséquences sur la manière dont les femmes militantes considèrent le mouvement féministe. On retrouve là encore une divergence qui opposa frontalement les féministes des années 70 et les tenants de l'orthodoxie au sein du PCF. Ces derniers, donc au nom de la défense de l'unité du prolétariat, dénonçaient le mouvement féministe comme une entreprise de division. Alors, les militantes issues du Parti communiste, de la CGT et de l'UFF, donc l'Union des femmes françaises, qui était l'organisation de masse du Parti communiste, organisation de femmes. Alors, elles défendent, ces militantes du Parti communiste, de la CGT et de l'UFF, une position assez homogène, qui est marquée par une volonté très nette de se distinguer du féminisme. Le cas de l'Union des femmes françaises, donc de l'UFF, est le plus net. La justification de cette organisation de masse, pour reprendre la terminologie du PCF, passe d'abord par une logique thématique, c'est-à-dire qu'il y a des revendications qui ne concernent que les femmes, elles doivent donc pouvoir en discuter, et c'est un moyen pour elles de se politiser, le mouvement de la paix a un peu la même fonction, mais du point de vue de la conception de la place des femmes dans la société, en gros, c'est un mouvement qui se contente de demander que les femmes soient considérées comme des êtres à part entière, et qu'à ce titre, leur soit reconnu le droit de revendiquer pour elles-mêmes. Alors il y a une autre intervention, il y a une intervention que je vais citer d'une militante de l'Union des femmes françaises, donc le 19 juillet, pendant un débat à propos des violences faites aux femmes, sur lequel je reviendrai plus tard. Elle affirme « Je ne suis pas ce qu'on appelle une féministe, tu vois bien ce que je veux dire, on n'est pas le MLF, on est pour la femme, mais aussi pour la famille et pour les enfants. » Donc, la mise à distance est assez radicale. Les féministes sont considérées comme un danger pour la famille et les enfants, et par là même, et ça a des conséquences considérables, les revendications autorisées des femmes sont rabattues sur le terrain de la maternité et de la famille, terrain sur lequel leur identité autonome est circonscrite. Donc les revendications spécifiques des femmes portent donc sur des domaines qui ne concernent pas les hommes, donc ce sont des revendications qui ne sont pas transversales mais qui sont supplémentaires, et plus encore, il y a une insistance forte, on y reviendra peut-être, sur la nécessité que les femmes entrent dans le monde du travail, mais Cet objectif-là, cette insistance-là, qui est très importante chez les femmes syndicalistes, vient buter sur le poids des normes traditionnelles, évidemment, mais aussi sur la valorisation par les militantes elles-mêmes de leur rôle dans la sphère familiale. C'est l'expression de la bonne mère qui a été utilisée souvent pour caractériser la manière dont les militantes de la sphère CGT communiste se considèrent. Alors, autre obstacle, après les aspects théoriques, donc deuxième point de cette première partie, du côté des pratiques des animateurs et des intervenants, alors ce que je qualifierais de sexisme ordinaire, pour désigner des comportements essentiellement inconscients, mais qui véhiculent une vision traditionnelle et sexuée des rapports sociaux. Alors, essentiellement deux thèmes. Le premier, c'est la répartition des rôles, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'interventions qui ne recèlent pas d'animosité ou de misogynie particulière, mais qui se contentent de renvoyer les femmes aux tâches qui leur sont traditionnellement dévolues, en les assignant à la sphère privée. Donc on a une série d'interventions qui impliquent que les tâches ménagères, et notamment la confection des repas, sont l'affaire des femmes. Un exemple, le 4 avril 1979, un animateur intervient comme suit. Attention, il est 11h45, alors attention s'il y a quelque chose sur le feu, parce qu'il paraît qu'il y a des dames qui nous écoutent et qui oublient de faire leur boulot, de préparer le dîner pour leurs enfants. Alors évidemment, cette remarque-là a surtout pour objectif de mettre en valeur le fait que la radio est très écoutée et que son contenu est captivant. On se doute également que ce sont effectivement les femmes qui préparent le repas pour les enfants au retour de l'école, mais l'absence de recul critique révèle quand même la cécité de l'animateur face aux problèmes posés. Alors je vous cite un autre exemple. C'est un peu caricatural, mais comme il est rigolo, je le cite. Donc le 17 avril est interrogé un forain, qui fait l'objet d'une émission passé-présent. Alors, c'était des émissions biographiques au cours desquelles une personne était sollicitée pour raconter son parcours. Alors, donc, le forain est interrogé, il se trouve qu'il y a une fête foraine à l'extérieur de l'hôtel de ville de Longwy. Son épouse finit par être convaincue par le journaliste de rejoindre le studio à la fin de l'émission. Alors, on était en train de parler des conditions de vie des forains. Donc, il y a un animateur présent, c'est des registres qui fête dignement son arrivée en lui posant la question suivante. Et en tant que ménagère, le travail de ménagère ne s'en ressent pas. Et le journaliste, qui est plus vigilant face à ce type d'assignation exclusive, dit « Il vous donne un coup de main ?» Et elle répond « Ah non, pas du tout. » Et là, le forain dit « Ça va, il y a l'eau courante, elle n'a pas à se plaindre. » Alors, j'ai failli donner ça comme titre à ma thèse, finalement. Alors, le deuxième terrain... Donc après la répartition des rôles, c'est les femmes comme objet de beauté. Alors il y a une polémique à un moment donné qui concerne le bal Miss Espoir. Le bal Miss Espoir qui est organisé par la commission jeune CGT et qui est l'occasion d'une relativisation par une série de défenseurs de cette initiative de la commission jeune du problème qui est posé. Donc c'est un bal en soutien à la CGT au cours duquel une jeune fille sera désignée comme la Miss Espoir de Longwy, donc dans le contexte des mobilisations. Donc il y a une polémique extrêmement vive à l'antenne avec un net écart entre les hommes ouvriers qui est par ailleurs une polémique entre hommes, les hommes ouvriers qui défendent l'initiative de la commission jeunes, et puis des salariés des classes moyennes, hommes aussi, qui eux, formulent davantage, qui sont choqués par l'initiative. Alors, cela dit, le sexisme ordinaire, tel qu'il s'exprime classiquement sous la forme de plaisanterie, est peu présent, et au total, si des interventions spontanées, comme celles que je viens de citer, révèlent la prégnance des modèles sociaux traditionnels, parmi les militants syndicaux au moins, réservant aux femmes la sphère privée et la plastique, disons, le cadre de LCA, donc le lieu du studio, semble propice à une expression assez polissée sur le sujet. Troisième élément, la prise en charge des questions spécifiques aux femmes. Alors, on constate, première chose, qu'il n'existe pas d'émission spécifique programmée régulièrement, à la différence du cas des enfants et des jeunes, il y a régulièrement des émissions destinées aux enfants ou aux jeunes, et des immigrés, puisqu'il y a une émission hebdomadaire animée et adressée aux immigrés. Donc la question des femmes, du coup, est abordée dans des programmes très divers, des débats sur la condition des femmes, des comptes rendus de mobilisation incluant des femmes, des entretiens qui donnent l'occasion d'aborder la question, et puis plus marginalement, la revue de presse qui est l'émission principale à la radio, c'est l'émission quotidienne, éditoriale. D'ailleurs, au regard de l'importance prise par cette revue de presse, le nombre de mentions de questions ayant trait aux femmes apparaît faible. Les thèmes évoqués sont assez peu nombreux, avec une prééminence, je l'ai dit, des débats qui sont liés au travail, la place des femmes dans le travail, l'importance pour les femmes de travailler. Et les problèmes qui sont spécifiques des femmes sont, en général, plus niés, dévalorisés, préemptés, ou subordonnées à d'autres préoccupations, qu'il s'agisse des tâches domestiques. Alors évidemment, la question du partage des tâches est importante, notamment pour des militantes qui peinent à concilier toutes leurs responsabilités. On constate pourtant qu'au-delà de la revendication théorique de la socialisation des tâches éducatives, qui revient dans les émissions de débat sur la condition des femmes, les femmes ont plutôt tendance à intérioriser la dévalorisation de ces tâches et elles laissent les hommes qui le peuvent, il n'y en a pas tant que ça, se livrer à des autosatisfecites qui relativisent la domination qu'elles subissent. C'est-à-dire, en gros, c'est drôlement bien les hommes qui partagent les tâches, ils sont quand même très bien. D'autre part, ils ne sont pas si mal nos maris. Voilà, c'est-à-dire, quand on leur donne l'occasion de parler de comment ça se passe chez elles, elles expliquent qu'en fait, ça se passe bien, parce que sinon, c'est une remise en cause d'elles-mêmes, non seulement de leur place dans la sphère privée, mais aussi de leur capacité à faire évoluer la situation. Donc finalement, les femmes qui se plaignent de la répartition des tâches pourraient obtenir mieux si elles le voulaient. Donc, on constate au total que s'il existe un problème identifié, c'est pas si facile que ça de le faire valoir, sans doute tant est pesante la répartition traditionnelle des rôles. Sur l'avortement maintenant, autre question spécifique, l'avortement, bon, on le sait, le Parti communiste français a finalement défendu l'avortement comme revendication, mais ça a été assez tardif. Et dans le bassin de Longwy, il y a encore des réticences, semble-t-il, également en raison du poids de l'Action catholique ouvrière. Il se trouve que la principale figure féministe, qui est une militante assez âgée, est contre personnellement l'avortement. Et par ailleurs, la question de l'avortement est liée, souvent en lien avec la mobilisation du Parti communiste, plutôt pour insister sur l'importance de la place du Parti communiste. Donc en l'occurrence, c'est moins l'avortement qui est important que la place du Parti communiste dans la mobilisation en question. Je vous donne deux exemples. Le premier, donc un journaliste qui insiste sur la nécessité de tenter de dissuader les femmes d'avorter si c'est possible. Donc il dit, ça demande un gros effort sur l'accueil pour prendre en charge les femmes, non seulement pour qu'éventuellement elles interrompent leur grossesse, mais aussi pour voir si c'est vraiment leur problème, parce que le fin du fin, ce n'est pas l'interruption, c'est peut-être la possibilité d'avoir un enfant, donc ça demande d'étudier les choses au cas par cas. Et puis, un autre moment, on nous donne lecture de la motion de la CGT qui a été lue lors d'une intervention de la CGT au conseil d'administration de l'hôpital local, qui fait pas non plus état d'une position très radicale sur le droit à l'avortement, puisque, je cite un extrait, la CGT considère que l'avortement ne peut être un moyen de maîtriser la fécondité à notre époque. Pour cela, une véritable politique familiale s'impose. Troisième question spécifique, donc sur les violences faites aux femmes. D'abord, il faut noter qu'à Lorraine-Cœur d'Acier, la question des violences faites aux femmes est d'abord prise en charge par les hommes, ce qui évidemment a des conséquences sur la manière dont elle est prise en charge. J'évoquerai deux questions. D'une part, le viol, et d'autre part, les coups, donc le témoignage d'une femme battue. Donc il y a une discussion au sujet d'un viol collectif qui a eu lieu à Longwy. Alors je vous passe les détails, tout ça est compliqué par des liens CGT, CFDT, etc. Je vous cite tout de même un passage. Donc les deux principaux journalistes à la radio s'appellent Marcel Tria et Jacques Dupont. Marcel Tria, dont certains ont déjà peut-être entendu le nom, qui est assez connu, qui est documentariste. Donc Marcel Tria dit, ces deux, donc en parlant des violeurs, ces deux pauvres gosses complètement paumés, rendus inconscients par le chômage, par le manque de perspective, par le manque d'avenir, alors voilà, ben nous on a envie de manifester notre amitié à leur famille, à leurs copains, c'est bien triste et ça va leur coûter très cher malheureusement. Et le deuxième journaliste dit, et puis bien évidemment, et donc le premier journaliste reprend, et aussi notre grande sympathie aux deux Danoises, elles sont Danoises, bon, qui sont elles aussi, alors elles, les premières victimes, parce que la folie subite de ces jeunes, pas subite d'ailleurs, elle a été le résultat de tout un processus, c'est ces deux filles qui l'ont payée. On voit bien l'équilibre dans cet échange. Bon. Donc la souffrance des femmes est fortement minimisée, alors que les animateurs donc, se concentrent sur la souffrance des violeurs, que je ne nie pas, hein, la question n'est pas là. Sur les violences faites aux femmes, on a à un moment donné une émission biographique consacrée à une femme qui a subi des violences importantes. Alors, elle se voit opposer d'abord le regard médical qui parle d'une certaine passivité des femmes face aux violences, et puis elle se voit aussi opposer le témoignage de militantes qui interviennent pour dire, bah, en tout cas, moi, je ne suis pas du genre à laisser faire. Hein. Donc, au total, Si les violences faites aux femmes sont évidemment dénoncées, elles sont relativisées s'agissant du viol, qui fait d'abord l'objet de recherches d'explications, et elles donnent lieu à une certaine culpabilisation des femmes pour leur passivité dans le cas des violences conjugales. Même si, évidemment, et c'est sans doute l'essentiel, le fait même de parler à la radio de violences faites aux femmes en 1979 dans une radio de la CGT, évidemment, ça a un caractère hautement subversif. Alors, dernier aspect, l'évolution sur l'année de la place des questions liées aux femmes, il y a deux dimensions. D'une part, si on prend les débats qui sont consacrés à la condition des femmes, ils sont nombreux en avril, enfin, c'est pour ça que beaucoup de mes citations sont en avril, c'est-à-dire donc dans le premier mois d'existence de la radio, ils existent encore en juin et en juillet, mais ils disparaissent ensuite entièrement. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une nette diminution de la place accordée au thème en général, pas seulement au débat mais au thème en général, dès le mois de mai 79 et puis ensuite plus nettement à partir de septembre. Donc visiblement, s'il existe une volonté manifeste d'aborder ces questions à l'antenne de Radio Lorraine Cœur d'Acier, la détermination de l'équipe d'animation s'effrite avec le temps et l'absence d'émissions spécifiques régulières accentue cette diminution. Cette évolution n'équivaut pas à une disparition des femmes, mais à des changements dans leur type d'implication et dans les rapports de force entre les différents groupes de femmes investis, je vais y revenir. Donc, j'arrive maintenant à la deuxième partie, sur la place des femmes comme actrices de l'expérience. Alors, au-delà des obstacles que je viens de décrire, les femmes occupent une place importante à Lorraine Cœur d'Acier. Elles occupent une place importante d'abord dans l'expression. Pour prendre les choses sur un plan plus général, Radio Lorraine Cœur d'Acier a cet immense mérite que par son fonctionnement, elle permet une expression ouvrière. C'est-à-dire, c'est pas une chose banale, évidemment, puisque les ouvriers sont d'ordinaire silencieux, sans autre accès à la parole publique ou à la fabrication des traces que celui qui leur est accordé par les organisations qu'ils se sont données. Donc leur histoire ressemble souvent à une histoire des organisations. Ici, l'expression ouvrière est double, avec un versant institutionnel et un versant individuel, mais elle est aussi multiple. C'est-à-dire que la radio permet que s'expriment ces travailleurs immigrés que la CGT a tant de mal à intégrer quand elle parvient même à les organiser tout court. LCA met en visibilité les femmes, qui est en l'occurrence une dimension presque absente du milieu militant en terre de sidérurgistes, donc femmes militantes, femmes de sidérurgistes, femmes qui en l'occurrence vont d'une certaine manière advenir à l'existence collective. Alors pour citer quelques chiffres, sur les 267 intervenants que j'ai réussi à, disons, caractériser socialement, il y en a 137 qui sont de milieu ouvrier. Et parmi ces 137 qui sont de milieu ouvrier, on trouve 20 femmes militantes syndicales, politiques ou associatives, et 27 femmes visiblement non militantes, hormis évidemment leur implication à la radio, donc ce qui fait 34% du total. Parmi les 130 intervenants qui n'appartiennent pas, selon les critères retenus, au milieu ouvrier, on trouve 85 hommes et 45 femmes, donc les femmes étant étudiantes, enseignantes, travailleuses du secteur médical ou paramédical, journalistes. Là aussi, 34%, même proportion. Donc, évidemment, pas négligeable. Visiblement, la sortie d'usine permet effectivement une ouverture aux femmes. Alors, le second aspect, après l'expression, porte sur la constitution de l'équipe d'animation. On a une équipe donc, qui est au départ constituée des journalistes et des dirigeants de l'Union locale CGT, mais l'équipe va se modifier et s'étoffer avec le temps. C'est marqué d'une part par le recul de la place des syndicalistes qui, je l'ai dit, retournent à l'usine, par l'intégration de nouveaux animateurs qui animent les émissions culturelles qui se multiplient, surtout qui se pérennisent, mais aussi par l'intégration progressive des habitués de la radio les plus fidèles, parmi lesquels un certain nombre de femmes de sidérurgistes. Et parmi elles, il y en a dès le mois d'avril un certain nombre qui s'impliquent dans l'activité quotidienne. Alors, beaucoup sur des tâches d'intendance, les repas, le ménage, les lessives, etc. Ensuite, à l'été, on a l'arrivée d'autres femmes qui, elles, ne sont pas de milieu ouvrier, qui ne prennent pas en charge les questions d'intendance, mais qui, parfois, prennent en charge les tâches techniques. En l'occurrence, la technique à la radio, c'est diffuser le son. Et puis, en novembre-décembre, il y a à nouveau une adjonction de femmes, d'une part des enseignantes, mais aussi avec un renforcement du pôle des femmes de sidérurgistes. Donc on a deux évolutions qui se croisent finalement. On a une intégration de nombreuses femmes dans l'équipe d'animation, mais en même temps la disparition des femmes comme sujet de discussion. Donc les femmes s'expriment, elles assurent des tâches, elles s'intègrent dans le noyau animateur. Maintenant, est-ce qu'il y a des spécificités dans le mode d'expression des femmes? Oui. Elles sont plus promptes que les hommes à intervenir pour offrir un témoignage notamment. Donc cette capacité à intervenir en abordant la réalité de l'expérience vécue et parfois intime est par ailleurs très valorisée à l'antenne. C'est par ailleurs quelque chose que les militants syndicaux ont beaucoup de mal à faire. Donc en l'occurrence, ça permet une expression à la fois individuelle et ponctuelle et qui ne concerne pas le champ politique, parce que intervenir dans le champ politique ou sur ce champ politique supposerait au contraire une mise à distance permettant une réécriture politisée et donc collective de cette expérience individuelle. Donc l'émergence de l'intime est à la fois rare à la radio, valorisée et identifiée aux femmes. D'ailleurs, elle n'est pas seulement valorisée, elle est sollicitée bien plus que pour les hommes. Hein. C'est-à-dire qu'aux femmes qu'on interroge sur leur parcours, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y a une série de femmes qu'ils ont interrogées sur leur parcours, les journalistes 68 tard peuvent leur demander des choses sur leur premier amour ou sur leur mode de contraception. Il n'y a rien d'équivalent comme question pour les hommes. Hein. Alors, tout ça a nourri le mythe, donc en partie fondé, hein, d'une radio ayant permis la libération de la parole féminine, grâce évidemment aux capacités des journalistes. Alors, ça me permet une digression. C'est marquant dans la mémoire de Lorraine Cordassier, c'est-à-dire que ce sont les journalistes, et en fait, principalement le plus célèbre d'entre eux, donc Marcel Trias, qui véhicule ce mythe de la parole libérée des femmes, en choisissant quelle femme il valorise ou non, hein, dans la mémoire telle qu'il la transmet, et en expliquant à quel point c'est l'intervention éclairée des journalistes qui a permis cette libération. Donc, ce qui veut dire que la hiérarchie dominant-dominée se retrouve, y compris dans la mémoire des dominés. Alors, cela dit, et cela mis à part, il y a effectivement, ponctuellement, un effet déstabilisateur de la parole des femmes, lorsqu'elles font le choix de s'aventurer sur le terrain de l'intime, et quand cette parole n'est pas guidée par les journalistes. L'exemple le plus célèbre à l'échelle de la radio, a lieu le 5 avril 1979. Donc il s'agit d'une succession de témoignages au cours d'une émission qui est consacrée à l'hôpital local, donc l'hôpital de Mont-Saint-Martin, qui est une banlieue ouvrière de Longwy, en présence d'une série de médecins de l'hôpital. Et donc des auditrices vont saisir l'occasion de s'adresser aux professionnels de la médecine et vont imprimer un autre cours à l'émission que ce qui avait été prévu initialement. Alors, les trois premières auditrices racontent par téléphone leur accouchement traumatique à Mont-Saint-Martin. Et face à elles, on a des professionnels, médecins et surtout sages-femmes qui défendent l'institution, des journalistes qui tentent d'arbitrer le différent ou de dégager les grands enjeux. La première auditrice explique que elle a, en fait, son premier accouchement s'est très mal passé et que le bébé est mort pendant l'accouchement. Et en fait, cette souffrance physique et morale dont elle fait état là, devant tout le monde, au téléphone, rencontre deux fins de non-recevoir. On a d'une part la sage-femme qui se réfugie dans un discours théorique et qui explique à quel point les choses ont progressé depuis. Et les journalistes, eux, réduisent le problème posé à des difficultés de communication avant et pendant l'accouchement. C'est-à-dire, les femmes souffrent alors qu'un bon cours d'accouchement sans douleur et un médecin compréhensif pourraient éviter le problème. Alors que l'intervenant faisait quand même état de phénomènes objectifs et notamment la mort d'un nouveau-né. Mais ça ne suffit pas pour autant à faire dévier les auditrices suivantes du thème qui les préoccupe. C'est-à-dire que la deuxième auditrice va intervenir dans le même sens. Alors elle commence en disant « la sage-femme ». Non, elle commence pas. Elle a déjà développé un certain nombre de choses. Et puis elle dit « la sage-femme m'a percé les os, involontairement bien sûr. Ensuite, ils m'ont laissé trop souffrir comme une bête. » Et puis elle poursuit son témoignage par une description très précise de son accouchement qui s'est déroulé 14 ans plus tôt. Elle dit, je cite encore, « je me suis mordu le bras pour ne pas crier. On me mettait des couches dans la bouche. Mon mari m'a dit « t'auras plus d'enfants si c'est ça ma fille ». J'en ai qu'une, et quand je vois une femme enceinte dans la rue qui attend un bébé, avec gymnastique ou sans gymnastique, j'ai la chair de poule qui me dresse sur les bras, je ne sais pas si maintenant c'est changé. » Et face à ce témoignage, on a le même type de réaction des journalistes et des professionnels, et là encore on reste frappé par les difficultés des animateurs et des professionnels à prendre en compte la souffrance dont il est fait état, sans immédiatement la minimiser ou la mettre à distance. Mais c'est un auditeur qui va exprimer ça le plus clairement, donc après ce deuxième témoignage, il intervient au téléphone en disant « c'est bon, on a déjà parlé de l'avortement, je sais que pour les dames c'est un problème, mais le débat était prévu sur Mont-Saint-Martin ». Donc cette fois, c'est sacrée mise à distance, on ne va tout de même pas parler d'un problème qui concerne essentiellement les femmes. Alors on notera au passage que dans l'esprit de l'auditeur, la douleur ne peut être associée qu'à l'avortement, hein, alors que là il ne s'agit pas d'avortement, il s'agit d'accouchement, c'est-à-dire d'une situation assez banale. La violence symbolique qui est exercée là n'empêche pas un troisième témoignage d'une jeune femme qui a perdu son bébé un an auparavant, à Mont-Saint-Martin, non par la faute des médecins, dit-elle, mais par la faute des sages-femmes. Et puis à partir de là, on a une contre-offensive qui s'organise. Il y a une femme qui appelle pour expliquer qu'elle-même a eu 9 enfants et qu'elle a été très bien soignée à Mont-Saint-Martin. en disant qu'on fout la frousse aux jeunes, je la cite. Et puis après, un nouveau témoignage à nouveau sur un accouchement traumatique, Marcel Tria demande lui-même, donc le journaliste, aux auditeurs d'élargir le sujet et d'aborder d'autres thèmes que l'accouchement, notamment l'administration de l'hôpital ou les conditions de travail. Et il annonce que le témoignage suivant est, je cite, « vraiment le dernier concernant les accouchements, je crois qu'il faut passer à autre chose ». Et progressivement, effectivement, les interventions vont se conformer à la commande. Donc tout est mis en œuvre pour que l'émission reprenne un cours plus traditionnel, après la mise à l'épreuve du cadre habituel de régulation, par l'irruption de l'intimité, donc irruption sans généralisation, sans mise à distance, et surtout sans contrôle, c'est-à-dire que ce n'est pas les journalistes qui sont allés solliciter cette parole-là, elle est advenue sans qu'ils s'y attendent. Mais c'est sans doute le fait que la mise au point soit explicite, justement, qui indique que même temporairement et même partiellement, la parole des femmes est ressentie comme une perturbation par l'équipe d'animation et notamment par les journalistes. Alors, on pourrait citer d'autres témoignages, celui d'une jeune femme handicapée, par exemple, qui évoque sans détour son handicap, sans jamais se conformer à la position de victime qu'on attend d'elle, ou une femme battue, donc j'ai évoqué tout à l'heure, qui parle sans aucune autocensure et sans aucune culpabilité des violences qu'elle a subies, malgré un certain nombre d'interventions qui la poussent dans ce sens. Donc tous ces témoignages qui sont de nature différente et qui portent sur une variété de thèmes sans lien direct entre eux ont en commun d'avoir au moins temporairement modifié le cadre posé par l'équipe d'animation. Donc, soit ils remettent en cause la bienséance idéologique, soit ils remettent en cause la pudeur, la répartition des rôles sexués, ou simplement le pouvoir de ceux qui parviennent à parler à la place des personnes interrogées, ou du moins à les guider par des chemins balisés en sachant exactement où ils veulent amener les gens. Alors, c'est sans doute l'indication des potentialités subversives qui sont associées à l'irruption d'une parole jamais entendue quand elle parvient à dire plus que ce que implicitement on lui avait permis. J'en viens à ma troisième et dernière partie qui sera brève. C'est-à-dire que jusque-là, j'ai parlé des femmes en distinguant parfois sur le plan social. Je voudrais proposer une typologie plus systématique et essayer de voir un peu comment tout ça s'organise et s'exprime. Alors, j'ai repéré trois groupes de femmes. Évidemment, j'entends le terme de groupe pas au sens d'un choix d'appartenance volontaire et conscient, hein, mais comme réalité collective de fait. Donc, au sein de chaque groupe, le degré d'investissement dans la radio est évidemment variable. On peut distinguer, d'abord, premier groupe, un petit groupe de femmes militantes de la famille CGT communiste qui appartiennent à la CGT, au PC et ou à l'UFF, parfois aux trois. Sont des femmes qui n'ont pas de responsabilité technique à la radio, si ce n'est dans les toutes premières semaines, ou très ponctuellement, pour certaines d'entre elles, qui ont sans doute assuré des gardes de nuit, puisque même si elle avait pignon sur rue, la radio restait illégale, donc on craignait une attaque par la police, donc il y avait des gardes assurés. Elles interviennent systématiquement pour rendre compte d'une mobilisation, ou pour participer à un débat spécifique, ou pour l'une d'entre elles, donc la figure historique féminisme à Longwy que j'évoquais tout à l'heure, qui elle a carrément gagné le droit d'intervenir dans une émission consacrée à son propre parcours. Deuxième groupe, c'est un groupe qui est constitué de femmes en général assez éloignées de cette famille idéologique, ou du moins sans lien direct avec elle, femmes qui sont caractérisées par un capital culturel relativement élevé. Alors, elles ne s'expriment pas toutes de la même manière, les étudiantes sont plus effacées, les enseignantes plus affirmées. Bon. J'inclus dans ce groupe une commerçante autodidacte qui est devenue un pilier de Lorraine Cœur d'Acier et une assistante sociale. Alors, elles sont plus investies à la radio que le groupe précédent, je veux dire, qui constitue un pôle important de leur vie sociale. Troisième et dernier groupe, ce sont les femmes qui ne sont ni militantes ni salariées, qui sont en général des femmes de sidérurgiste et qui consacrent une grande partie de leur temps à la radio. Ce sont des femmes, entre parenthèses, qui en général ont passé 35 ou passé 40 ans, c'est-à-dire que leurs enfants sont maintenant en âge d'assurer eux-mêmes leur repas de midi, etc. Donc, en tout cas, elles sont dégagées d'une série de tâches quotidiennes obligatoires pour les mères d'enfants en bas âge, donc, ce qui leur permet de passer beaucoup de temps au studio. Donc elles y assurent des tâches d'intendance, elles prennent peu à peu la parole, mais de préférence au téléphone. Alors la difficulté, c'est que, je l'ai dit à l'entame, beaucoup d'entre elles ne peuvent pas être identifiées justement parce qu'elles se cantonnent aux tâches d'intendance et qu'elles restent silencieuses. Même si elles passent sans doute des heures dans le studio, on ne les entend pas. Le 29 avril, donc un mois après le lancement, Marcel Tria mentionne, je cite, 6 ou 7 copines qui se reconnaîtront et qui créent un climat très agréable. Donc le fait qu'elles assurent ces tâches est donc d'autant moins remis en cause que chacun semble assez satisfait de la répartition des tâches telle qu'elle est, avec des femmes dévouées dont les services rendent évidemment le climat très agréable. Les relations entre ces trois groupes ne sont évidemment pas simples, mais c'est entre les femmes salariées et militantes et les femmes non salariées et non militantes que les rapports semblent les plus tendus. Il y a un débat assez tardivement à l'échelle de l'histoire de la radio, donc en février 80, ou presque un an après le lancement de la radio, au cours duquel un journaliste, qui est le moins connu des trois, puisqu'il y en a un troisième, se trouve en position de défendre les femmes de salariés contre des jugements négatifs qui ne sont pas formulés à l'antenne à ce moment-là, mais qui, visiblement, existent. Alors, même au-delà de ça, la forte présence des femmes à la radio semble être même en passe de devenir un argument qui délégitime la radio. Il y a une militante qui est par ailleurs secrétaire de l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle de la CGT, qui fait une critique de la radio et puis elle dit « peut-être qu'il y a des copains qui trouvent qu'il y a beaucoup de femmes à la radio ». Et puis dans la suite, elle explique à quel point il faudrait qu'il y ait plus d'ouvriers sidérurgistes. Donc, alors évidemment, on est donc un an après la création de LCA, on est dans le cadre d'un débat et d'un conflit qui se développe sur la radio elle-même, avec des relations qui se tendent, qui se dégradent, et les femmes non salariées se retrouvent un peu prises au piège d'une division entre deux groupes de femmes, de part et d'autre, de la barrière du salariat et du militantisme. Donc, évidemment, elles se trouvent instrumentalisées dans le débat. Alors, les désaccords ne sont pas formulés, mais la tension est palpable, et donc dans ce débat, il y a de l'agressivité, des pleurs, sans que jamais les choses soient formulées clairement. Et il y a notamment pas mal de malaise du côté des syndicalistes de la commission féminine CGT, puisqu'il existe une commission féminine de la CGT en lien avec l'union locale de la CGT à Longwy. Donc finalement, l'extériorité croissante des syndicalistes du bassin vis-à-vis de LCA, qui est notamment liée à la fin des mobilisations dans la sidérurgie, va contribuer en retour à solidifier un noyau central homogène et dont le fonctionnement va nourrir tous les fantasmes. Alors, l'importance qui est prise par ces femmes qui ne sont ni salariées ni militantes, c'est-à-dire aux antipodes du point de vue des modes de reconnaissance légitime des syndicalistes femmes, porte en elles une contradiction qui est difficile à surmonter avec l'idéal militant que les syndicalistes affichent. Alors, à cela s'ajoute la fonction qui leur échoit, hein, l'intendance. Évidemment, cette fonction retombe du point de vue de l'assignation symbolique sur l'ensemble des femmes investies à la radio. Et puis, il y a également une série de rumeurs sur les frasques sexuelles auxquelles se livreraient les journalistes avec les femmes non salariées. Bon, en substance, le journaliste semble demander au groupe de militantes, au nom de la solidarité féminine, de ne pas contribuer à la campagne qui vise les femmes non militantes impliquées à Lorraine Cœur d'Acier et qui sert surtout à délégitimer Lorraine Cœur d'Acier en tant que telle. Mais c'est précisément cette solidarité-là que les syndicalistes refusent d'assumer, en ne reconnaissant à aucun moment dans ce débat le rôle des néo-militantes, alors que le journaliste insiste, des femmes appellent en pleurs en disant « mais quand même, tout ce qu'on fait pour la radio, etc. » Elles ne les citent même pas dans leurs réponses et elles réservent leur soutien aux militants des entreprises. Alors, au-delà des clivages, il y a pourtant un point assez fondamental qui rassemble les trois groupes que j'ai cités, qui pourraient fonder une solidarité de fait, c'est le fait qu'aucune femme ne participe vraiment à l'animation éditoriale ou politique, ni ne prend en charge des missions régulières. À l'exception, il y a deux exceptions, une éphémère rubrique culturelle qui est co-organisée par une jeune étudiante, et puis une tardive émission qui s'appelle Les Mini-Cœurs d'Acier, qui est animée par la commerçante dont j'ai parlé plus tôt. Alors en même temps, c'est sans doute notable que les deux exceptions relèvent du groupe des femmes à fort capital culturel, et que l'une d'entre elles renvoie à un domaine traditionnellement dévolu aux femmes, puisqu'il s'agit d'émissions destinées aux enfants. Alors, il convient aussi de souligner à quel point les différents rapports de domination s'imbriquent et se renforcent. Elles sont toutes dominées en tant que femmes, mais elles parviennent ou non à compenser cet état de fait. Du côté des femmes militantes, les états de service militants jouent un plus grand rôle que pour les hommes, d'une part parce que la rareté conduit à une plus grande valorisation, et d'autre part parce que le choix même de militer implique pour les femmes, bien plus que pour les hommes, la capacité de se confronter au moins partiellement avec la domination qu'elles subissent. Dès lors, elles disposent d'armes qui peuvent servir aussi à Lorraine Cœur d'Acier. Le capital culturel pèse également lourd dans la capacité à limiter la domination subie. Les femmes qui sont mieux dotées de ce point de vue peuvent légitimement prétendre à être reconnues à égalité avec les journalistes sur ce terrain-là. Mais en même temps, cette situation-là implique que ce soit sans doute les femmes les moins dotées en capital culturel et en capital militant, pour lesquelles l'expérience de la radio est la plus précieuse. malgré ses limites, puisque c'est le seul cadre militant dont elles disposent, et même si elles font l'expérience d'une certaine condescendance en raison de leur double légitimité, même si elles exercent des tâches subalternes. Alors, pour finir sans conclure, je vais vous donner un dernier exemple qui me semble assez révélateur de l'ensemble des contradictions de la situation. On a, donc on est en avril, une visite de Ginette, je cite son prénom, ça va m'aider pour après, qui est militante CGT et qui est animatrice à Radio Quinquin. Radio Quinquin étant la deuxième radio de lutte CGT qui a fait un peu de bruit. Donc elle arrive et puis au bout d'un moment elle fait remarquer l'absence de femmes autour de la table. Alors Marcel Trial lui répond, non d'ailleurs il ne répond pas, il dit, tiens Madeleine, tu ne voudrais pas parler dans le poste. Et Ginette répond, je remarque que c'est une manière d'éviter de répondre. Donc ensuite tout ça plaisante. Et Ginette reprend, mais il ne faut pas des femmes pour faire les potiches. Ça plaisante encore. Et Marcel Trial dit, on aimerait bien qu'il y ait des femmes, on demande, mais ce n'est pas si facile apparemment. Donc au total, après avoir tenté d'esquiver le problème par la plaisanterie, il s'en tient à un constat et il a l'air de considérer que la faute n'incombe pas à l'équipe d'animation, mais aux femmes qui ne se déplacent pas ou qui n'interviennent pas. Et puis un peu plus tard, il y a une des néo-militantes, donc des femmes de CDRJ, qui appelle au téléphone, qui est une de celles qui passe le plus de temps à Lorraine Cœur d'Acier, et qui entame un échange avec Ginette. Donc elle s'appelle Carmen, elle dit « Merci d'avoir dit qu'il manquait des femmes, on est là, on fait le café pour ces messieurs, on les sert. » Ginette répond « Mais vous aimeriez bien parler au micro quand même ?» Et Carmen dit « Oh non, non, on aime bien être discrète, c'est tout, on se contente. » Jacques Dupont, donc le deuxième journaliste, dit « On t'a reconnu Carmen, hein ?» Et Carmen dit, elle rit, elle dit « Il y a mes enfants qui crient bravo. » Ginette dit « On ne va pas se contenter de faire le café toute notre vie quand même. » Et Carmen dit « Oh bah il en faut, il en faut. » Ginette dit « Les hommes peuvent le faire aussi. » Carmen, ils ne l'ont jamais fait encore, la prochaine fois on va se mettre à la table et ils nous feront le café. Et Marcel Trial qui conclut en disant, d'accord Carmen, tout à fait d'accord, demain matin on fera ça. Donc la difficulté essentielle qui est posée aux journalistes ici, c'est pas tellement l'absence des femmes finalement. C'est le fait que les femmes soient en réalité à leur service pour certaines questions d'intendance et que ce fait-là soit révélé publiquement. Donc ce qui tend à relativiser un peu la réalité de la position qu'ils occupent dans les représentations des femmes et sans doute dans les leurs, celle d'hommes bienveillants qui dispensent une expérience, un savoir, une méthode d'analyse, etc., en faisant tout leur possible pour intégrer des femmes qui subissent, évidemment hors de leur portée protectrice, un rapport de domination. Carmen ici expose la complexité de sa position. Elle est capable d'appeler au téléphone pour contester le statut dans lequel elle est reléguée, mais elle est dans l'incapacité d'aller plus loin, tant elle est habituée à ce statut-là, à l'extérieur comme au sein de la radio. Et c'est finalement en même temps son intégration à la radio qui, tout en passant par des tâches subalternes, lui permet de prendre la parole à l'antenne. Donc pour tenter de résumer la situation en une formule, des femmes font à LCA une expérience extraordinaire sur le plan humain et militant, tout en demeurant dans une position subordonnée du point de vue de la division du travail, dans un rapport d'infériorité vis-à-vis des journalistes, mais en retour, les journalistes, eux, sont davantage conscients, disons, de l'expérience qu'ils offrent que de la subordination qu'ils contribuent à maintenir. Voilà. Merci.
Merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair et qui, en fait, à travers la création d'un espace singulier, finalement, en dehors de l'usine, nous a montré les femmes à la fois actrices, sujets, objets, et aussi bien matériellement présentes que, en fait, dans la prise de parole. C'était les deux aspects qui étaient très intéressant à écouter, c'était de voir en fait cette articulation en tant que femme présente dans cet espace du studio, mais aussi objet, et puis la notion de, elle pouvait de l'extérieur l'investir justement en appelant et en participant, et faire du coup tout le potentiel à la fois de subversion qu'elle pouvait avoir, mais aussi dans quelle mesure ça remettait ou pas en cause la domination qui s'exerce sur elle.